franceinter.fr.
Bonjour. Il y a un peu plus de 4 mois, le 25 avril puis le 12 mai, le Népal a été frappé par 2 violents séismes. Le bilan humain, près de 9000 morts, est terrible pour ce pays de 30 millions d'habitants, un des plus pauvres de la région. Pendant quelques semaines, l'attention des médias du monde entier s'est tournée vers le Népal. L'aide internationale, les promesses de dons ont afflué. Et puis l'été est arrivé et les médias sont passés à autre chose, c'est la loi du genre. Mais c'est sur la durée qu'on mesure la portée réelle d'une telle catastrophe naturelle. Après les mois de mousson et ses pluies diluviennes, une grande partie de la population népalaise s'apprête à affronter l'hiver dans des abris de fortune. Les ONG présentes sur place préviennent, le pire n'est peut-être pas derrière pour ces populations et l'aide doit à tout prix se poursuivre. Le Népal essaye aussi de relancer le plus rapidement possible le tourisme, une activité vitale pour l'économie du pays. C'est sur un des principaux sites touristiques de Katmandou que commence le reportage de Solène Lehen, Népal, la difficile reconstruction.
Interception, le magazine de la rédaction.
Nous sommes à Katmandou, la capitale du Népal. Katmandou, mythique cité des hippies dans les années 70, point de départ des alpinistes et randonneurs il y a encore peu. Katmandou, une ville relativement épargnée par le séisme, sauf et cette image on l'a vue sur les télés du monde entier, la place historique, ces temples anciens à terre, ces temples fierté du pays classés à l'UNESCO. Eh bien, je me dirige vers cette place centrale de la ville, Durbar Square. C'est là que nous allons débuter notre voyage. On va y rencontrer Primrose Lama. Il est guide touristique.
Bon, bonjour, je m'appelle Primrose. Professionnellement, je suis guide francophone. On est à Durbar Square.
Pour cette place, est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de temples qui ont été démolis?
Il y en a à peu près une quinzaine de temples détruits.
Sur combien au total?
Plus que 50 ou 60 temples.
On va passer la barrière. Il faut payer?
Oui, là il faut payer.
Quand on est touriste, il faut de nouveau payer?
Oui, de nouveau payer parce qu'au début c'était fermé. Là maintenant on paye pour aider de reconstruire les monuments qui ont eu des dégâts.
Et c'est combien?
750 roupies.
750 roupies.
Là maintenant vous voyez, c'est un temple hindou.
À celui-ci carrément il n'y a plus de toit.
Oui, ça. Et donc ici c'est beaucoup de temples sont détruits parce que ce sont les temples qui datent du 16e, 17e siècle.
Et qui étaient construits principalement avec des briques rouges et des boiseries.
Oui, c'est ça. Et dans les briques aussi on utilise la terre pour tenir les briques.
Et c'est ça qui n'a pas tenu.
Oui, exactement. Devant nous, c'est un temple très 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 important. Et donc,
il avait l'air très grand, voilà. En tout cas le socle est
c'est
immense.
C'est le plus haut temple de cette place. C'est le temple de Shiva. C'est le style népalais, c'est un style pagode qui date du 18e siècle. Et puis ça a été complètement détruit. C'est un temple connu pour l'époque des hippies. Dans les années 65-70, les hippies ils rassemblaient ici.
Donc le temple des hippies a disparu.
Aussi.
Et là, on voit, comme sur toute la zone, en fait, des panneaux qui interdisent d'approcher.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est la zone dangereuse. On ne peut pas s'approcher parce que n'importe quel moment, ça peut tomber des murs ou quelque chose. Il faut vraiment remercier aussi aux armées. C'est grâce à eux qu'on a réussi à ranger toutes les choses dans le Durbar Square ou ailleurs.
C'est l'armée qui a donc dégagé entièrement la place pour qu'on puisse à nouveau marcher. Parce que c'était une priorité, cette place?
Oui. Parce que depuis des siècles, on a les rois, la famille des rois qui restaient, qui basaient dans le quartier. Et donc, c'était vraiment un centre commercial et un centre pour gouverner l'État.
Et un centre religieux.
Oui, un centre religieux. Regardez, juste devant vous, là, c'est la grande statue d'une divinité de protection.
Et là, on voit toute une famille qui est en train de, je sais pas, de faire des offrandes, de
voilà.
Toucher la statue.
Exactement. Tous les matins, les gens, ils viennent avec leur panier des offrandes pour faire les offrandes et pour prier pour cette divinité.
Donc c'est une place qui est vivante.
Même maintenant, oui, c'est encore vivant.
Là, c'est très impressionnant parce ouais. Qu'au fur et à mesure qu'on chemine, on voit des voilà. Tas donc, de briques à l'entrée des temples.
Donc, ils ont trouvé cet endroit pour mettre, pour garder les briques. Parce qu'ils vont réutiliser les briques pour la reconstruction.
Les mêmes.
Les mêmes. Selon le gouvernement, ils ont annoncé, ils ont prévu 5 ans de reconstruction au Népal. C'est pas possible de reconstruire là maintenant parce que c'est la mousson. On ne peut pas faire la grande chose pendant la mousson. Parce que comme il y a la terre et les briques, et puis il pleut tout le temps. Et donc pendant la mousson, quand on commence les chantiers, ça ne va pas tenir, ça va tomber tout de suite.
Donc le pays est paralysé là, oui. Pendant 3-4 oui. mois. Alors tout ça, c'était des temples qui étaient très prisés des touristes. Primrose, vous qui êtes guide touristique, comment vous imaginez la prochaine saison touristique qui débute dans finalement très peu de temps?
Bien sûr, il n'y aura pas 100% de touristes qui vont venir à l'automne, mais il y aura quand même quelques touristes qui vont venir voir le Népal. Il n'y a pas des mêmes choses que je montrais avant aux touristes. Là maintenant, quand même, je peux dire aux touristes qu'il y avait des choses comme ça.
Il va falloir qu'ils imaginent.
Voilà, qu'ils imaginent. Et je peux quand même leur expliquer c'était comment avant. Et après, je peux donner quand même quelques réponses optimistes en disant que ça va reconstruire bientôt, dans quelques années.
Namaste. Namaste, I'm looking for Sunshine Trekking Agency. Yeah. This way?
Yeah.
Okay. Danebad. Au Népal, il y a l'Everest, les hauts sommets qui attirent chaque année des centaines d'alpinistes. Mais le gros des troupes, des 800 000 visiteurs annuels, ce sont les randonneurs, les trekkers, comme on dit. Le tourisme avant le séisme, c'était un tremplin économique, 7% du PIB, la première source de devises du pays. Au Népal, il y a deux saisons de trek, avril-mai, et puis septembre-novembre, la saison d'automne qui va bientôt débuter. Comment s'annonce-t-elle? Je vais poser la question à Rishi Basnet. C'est un Népalais qui tient avec sa femme Rabina une agence de trek à Katmandou. Cette agence est située à l'entrée du quartier touristique. Ah voilà, Sunshine Trekking. On a sonné. Un grand portail. C'est un petit immeuble de 12 étages. Namasté. Rabina?
Yeah.
Bonjour, je suis Solène.
Yeah,
enchantée. Rishi est à l'intérieur?
Yeah.
D'accord. On enlève les chaussures?
Sorry, I don't know the trends.
Allons-y. Bonjour.
Namasté.
Namasté. Rishi?
C'est moi. Enchanté.
Bonjour. Solène.
Bienvenue ici à Sunshine Trekking. Je m'appelle Rishi Basnet. Notre agence basée à Katmandou. Nous sommes une petite agence locale. Et cette année, à cause du tremblement de terre, c'est très difficile pour nous. On n'a pas du tout de touristes. On a eu beaucoup d'annulations aussi.
Combien?
À peu près 80-90%. On espère, on garde un grand espoir pour 2016, surtout.
2015, c'est fichu.
2015, ce n'est pas une bonne année pour nous. Comme on n'a pas de clients, on n'a pas de boulot, on est au chômage. Hein. Les guides, on a 15 guides.
Et les porteurs, 15 guides au chômage.
Oui, et à peu près 25 porteurs. Et ici, on est 5. Là, les porteurs, les guides, ils sont au village. Ils vivent avec l'agriculture. Et nous aussi, bon, ça va être difficile, mais on va se débrouiller.
Le tourisme, est-ce que c'est là qu'il faut continuer à investir aujourd'hui?
On pense que surtout on aura des touristes pour 2016. Je pense qu'ils viennent là pour voyager, en même temps pour nous aider. Même ils viennent ici pour faire un trek, ça nous aide. Déjà, on a du travail. S'il y a un touriste, 5 Népalais, on a du travail. Par exemple, déjà l'agence, l'hôtel, le restaurant, même des pilotes, hein, à la douane, les porteurs. Ça fait tourner à tout le monde. Hein. Ça, c'est un gros économique du pays, le tourisme. Même hier, j'ai parlé avec une cliente fidèle. Elle m'a dit, si je viens, je te prends comme guide. Comme ça, ça va t'aider.
C'est vraiment un acte de solidarité que les touristes font. Ils vous envoient aussi de l'argent, peut-être ?
Quelques anciens clients et les amis, hein, ils nous ont envoyé un petit peu d'argent. Et avec cet argent, on a acheté des tôles pour le village. Et on a donné à peu près 18 familles. Dans cette situation, il faut aider aussi. Hein. Et nous, quand même, on ne meurt pas de faim. Mais il y a des gens, ils n'ont rien du tout, hein, ils ont tout perdu. Même à côté de chez nous, il y a des gens qui dorment encore sous la bâche, là. Juste à côté, là, juste derrière. Hein.
Donc, sur le terrain vague à côté,
oui,
là.
Oui, juste là. Donc, par rapport à eux, on est bien.
Vous relativisez.
Oui, oui, oui. On n'a pas perdu quelqu'un de la famille. On pense toujours positif. Hein. Et notre idée, si ça ne marche pas, on pense aller à l'étranger.
En France ?
Je vais aller plutôt au Canada ou aux États-Unis. En France, il n'y a pas de travail. Déjà, il y a beaucoup de chômage en France. Mais pour nous, c'est bien si on veut aller, on va aller au Québec, comme on parle français. Mais on a encore du temps. Il ne faut pas penser négatif aussi. Hein. On attend encore quelques années.
Vous préférez quand même rester au Népal plutôt que vous expatrier ?
Ah, bien sûr. Ça, c'est notre pays. Et aussi, si je vais à l'étranger, je dois commencer à partir de zéro.
Vous espérez
si
pas
si
en
on n'a pas de soi, il faut. Hein. Comme on dit, au lieu de mourir, on peut être fou. Hein. Il vaut mieux être fou que mourir.
Partons pour le Sindhu Palchok. C'est un district qui se trouve au nord-est de Katmandou, un district montagneux qui a été l'un des plus touchés par le séisme. 40% des morts dans cette région, des morts du tremblement de terre, 3500 au total. Sur les hauteurs du village, il y a des maisons en tôle là. Namaste. Ce sont des maisons faites en tôle avec des bâches qui servent de toit, qui servent à préserver de la pluie. Les habitants ont installé leurs chèvres et leurs poules juste à côté. Ah bah tiens, il y a même une vache. Ils ont reconstruit quasiment un village. Dans la boue. Hein. À l'extérieur, il y a une marmite qui chauffe sous un feu de bois. Apparemment, c'est de l'alcool qui chauffe. Ah, y a une petite dame à l'intérieur. Namasté. Est-ce qu'on peut rentrer et vous poser quelques questions? On peut s'asseoir? Merci. Donc, ce sont des lits en bois. Il y en a trois dans une petite pièce qui fait environ 15-20 mètres carrés. Ils ont installé un lino par terre sur le sol pour que ce soit pas trop boueux. Il y a deux petites armoires, une petite table, une chaise et des affaires un petit peu partout accrochées aux tôles, aux poutres, avec un toit en tôle, une petite moustiquaire, des fils qui traînent un peu partout. Ils ont réussi à installer, faire une petite installation électrique et des bâches pour protéger de la pluie. Vous vous appelez comment?
Votre nom?
Indra Maya Srestha.
Indra Maya Srestha.
Indra Maya
Srestha.
D'accord. Vous vivez à combien dans cet abri?
Il y en a 5 ici.
5 pour 3 lits. Qui vit ici? Qui sont les 5 personnes?
Natini. Ya chora buari natini mo nati euda cha ani Kathmandu duita cha.
Son fils, sa belle-fille, le petit-fils et la petite fille et elle.
Pendant le tremblement de terre, où étiez-vous?
Moi garmai thi. Moi thula garmai thi.
J'étais à la maison avec ma petite fille.
Et vous avez été blessé? Il y a des gens autour de vous qui ont été blessés ou qui sont morts?
Moro pani. Ou amro buari moro ya tala garko. Moro pani gaite ta bhayena moro.
Il y a pas eu blessé mais il y a eu mort.
Ek jana moro ya amro santan ma. Aru ta kati moro kati moro thai chaina.
Elle a perdu
sa belle-fille.
Ma maison s'est effondrée sur elle.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre maison? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que vous avez pu sauver, ramener?
J'ai quand
même perdu mon maïs, les céréales qui étaient stockées. Mais quand même, grâce aux associations, on a des alimentations, des céréales, du riz, l'huile. Là maintenant, on mange, on vit avec ça, nous sommes contents.
Et vos enfants, que font-ils de leur journée aujourd'hui?
Ils ne font pas grand-chose à ce moment-là. Là maintenant, ils font la cuisine, ils mangent, ils se reposent, ils se baladent. Ils n'ont pas vraiment le courage, l'énergie d'aller travailler dans les champs à cause de la séisme. Là, ils pensent toujours qu'il y aura d'autres répliques.
Est-ce que vous avez peur d'un nouveau tremblement de terre?
Oui, j'ai peur. Mais maintenant, ça nous est égal. Il y a des petits secousses presque tous les jours. Même hier, ils ont senti une petite réplique.
Et pour le futur?
En futur, ils vont reconstruire la maison. Ils vont habiter ici.
Vous avez l'argent pour reconstruire?
Ils ont entendu parler que le gouvernement qui va leur donner quelques argent pour les gens, pour les victimes de séismes. Et donc, même s'ils ne donnent pas, ils ont obligé de chercher l'argent ailleurs ou emprunter l'argent pour reconstruire leur maison.
Vous nous emmenez voir votre maison?
Lani, lani.
Lani, zom zom, on y va? Allons-y alors. Je vous suis. Qu'est-ce que c'était ce bâtiment-là?
C'était une école.
C'était l'école, ça? C'est complètement effondré, là. Il y a une partie des murs qui se sont effondrés. Il y a des poteaux, mais on se demande encore comment elle tient debout, cette école. Heureusement que le séisme, le principal, a eu lieu un samedi midi. Les enfants, c'est le jour férié, les enfants n'étaient pas à l'école. Il y a en fait une rue principale dans ce village. Il y a des maisons, ou plutôt ce qu'il en reste, de part et d'autre. Namasté.
Namasté.
Samchaisa. Tixé.
C'est votre maison ?
C'est sa maison.
C'est une immense maison. Elle était vraiment belle en plus, avec des briques rouges, des boiseries partout. Il y avait 2 étages, ce qui est quand même relativement rare. Donc une maison assez cossue. Et là, on se rend compte qu'il ne reste plus grand-chose à l'intérieur. Il n'en reste plus grand-chose même du tout. Il y a un mur qui s'est effondré. Il n'y a plus de toit d'un côté. Vous étiez à l'intérieur pendant le séisme ?
J'étais à l'étage.
Ça tremblait ? Elle fait des gestes pour montrer que ça tremble.
Avec un bruit. Et puis, j'ai vu le balcon, le dubako, qui sont tombés. Et puis, elle est sortie de sa maison. Elle est montée la maison à côté, en courant. Comme elle a vu la maison qui a été fissurée. Et puis, elle est remontée encore plus loin où il y a leur champ.
Et là, vous ne pouvez plus vivre dans cette maison ?
Non. Ils ont peur. Ils ont peur parce que toutes les murs sont tombés déjà.
On va rentrer juste à l'entrée, peut-être pas trop. Oui, c'est vrai que c'est branlant. C'est une très belle maison. Il y a encore quelques affaires, une vieille télé. Et là,
tous les jours, il y a des terres qui tombent. Quand elles montent à l'étage, ça tremble.
Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez votre maison là comme ça, à moitié détruite ?
C'est vraiment triste. Elles sentaient comme le ciel qui tombait sur la tête. Comment je peux vous expliquer la maison que j'ai vécue longtemps, que j'abandonne là maintenant à cause du séisme, c'est vraiment pénible.
Et cette maison, c'est vous qui l'aviez construite ?
Non, c'était son arrière-grand-père. Abandonné cette maison et puis aller installer dans un abri sur le tôle, c'est pas la même chose. Ça fait mal au cœur.
Ouais. Et elle garde le sourire. Quel âge vous avez, Cathy Parsa ?
Moi ?
Elle a 78 ans. Je vivais vraiment bien avant. J'étais contente.
Comment ça se passe avec la mousson ? Est-ce que vous avez peur d'être malade, de la pluie, de l'humidité ?
Elle
n'a pas peur avec la mousson. Elle n'a même pas peur pour la mort. Elle aimerait bien... Si elle peut mourir, ce serait bien, parce que je suis tout seul, j'ai perdu mon mari, et mes fils, ils ont leur famille, ils sont tranquilles, donc moi tout seul maintenant, j'ai assez vécu.
Danebad, merci.
फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार
Nous arrivons dans le village d'Atarpur. C'est un village où la plupart des maisons faites de briques, de pierres et de bois se sont soit effondrées, soit sont fortement endommagées. Depuis plusieurs semaines, les habitants dorment donc sous des tentes, sous des bâches, sous des tôles. Ils font un peu comme ils peuvent. Et ce matin, malgré la pluie qui tombe en continu, ils sont des dizaines et des dizaines d'habitants, surtout des femmes, à s'être pressés en contrebas du village. Médecins du Monde, l'ONG Médecins du Monde, offre aujourd'hui des consultations médicales et ils sont des dizaines et des dizaines d'habitants à attendre d'être examinés par un médecin.
Je m'appelle Nished, je travaille pour Médecins du Monde depuis août 2014. On a mis en place notre dispositif d'urgence et ce sera le cas jusqu'en janvier prochain.
Depuis ce matin, combien de patients avez-vous examinés dans cette petite clinique mobile ?
On a vu 90 patients depuis ce matin et d'ici la fin de la journée, nous en attendons 30 ou 40 de plus.
Nous sommes plusieurs mois après le tremblement de terre. Est-ce qu'il y a encore des consultations liées au tremblement de terre ?
Maintenant, nous sommes revenus à une situation normale. Jusqu'à présent, dans nos cliniques mobiles, les habitants venaient pour des coupures, des blessures, des fractures. Mais maintenant, on est revenu à des pathologies plus classiques. Des fièvres et des maladies liées spécifiquement à la mousson, comme les diarrhées ou les fièvres typhoïdes. La mousson arrive et dans ces conditions, les habitants n'ont pas d'abri convenable. Vous savez, ils vivent sous des tentes avec l'eau qui ruisselle. Ils s'entassent à 5 ou 6 sous une tente, donc ce n'est pas la mousson qui pose problème. Ce sont les conditions de vie dans ces abris de fortune.
Et quelle sorte de problème ça engendre alors ?
Il y a deux semaines, nous avons dû faire face à une épidémie de diarrhée sanglante. Et la semaine dernière, à des cas de fièvre typhoïde. Là aussi, on a eu un début d'épidémie. Le problème, c'est l'eau, l'assainissement. La plupart des toilettes sont détruites. Les habitants ont de l'eau, mais elle n'est pas traitée. Ils font leurs besoins dehors. Dans ces conditions, nous avons de la chance de ne pas avoir encore eu de cas de choléra.
Est-ce que depuis le tremblement de terre, la santé des Népalais s'est aggravée ?
Oui, parce que notre système de santé s'est complètement effondré. Et maintenant, à cause du tremblement de terre, les routes sont fissurées dans les montagnes. Il y a des glissements de terrain sans arrêt. Donc, c'est difficile d'atteindre certains villages par la route. Leurs habitants n'ont aucune possibilité d'être soignés. Donc, oui, les capacités de soins ont beaucoup diminué.
Si les habitants ne parviennent pas à reconstruire d'ici la fin de la mousson et d'ici le début de l'hiver, est-ce qu'on risque d'avoir une situation sanitaire grave ?
Oui, il y a des chances, car juste après la mousson viendra l'hiver. Les hivers sont très froids dans les montagnes du Sindhu Palchok, et si les enfants n'ont pas de vêtements assez chauds, si l'eau n'est pas potable, il y a un fort risque de voir se développer des pathologies hivernales, comme la rougeole ou même la grippe. Les cas pourraient donc se multiplier si on ne fait rien d'ici là. Vous êtes Lakshmi Maya Shrestha ?
Oui.
Quel est votre problème ?
J'ai un problème de voix. Je perds ma voix. Quand j'appelle mon fils, quand je parle, au bout d'un moment, j'ai la voix qui se casse. Parfois aussi, j'ai le nez bouché, les yeux qui brûlent. Depuis le tremblement de terre aussi, je n'ai plus très envie de parler. Je préfère rester seule dans mon coin. Et puis régulièrement, j'ai des trous de mémoire. J'oublie des choses.
Vous avez mal à la tête aussi ?
Oui, c'est lourd, là, au niveau du front.
Depuis quand ?
Ça fait longtemps que j'ai mal à la tête. C'était passé un moment, et puis là, ça revient. Le pharmacien m'a dit que c'était à cause du séisme.
Je m'appelle Hélène Loin, je suis coordinatrice santé mentale pour Médecins du Monde France.
Comment vont les Népalais aujourd'hui ?
On observe beaucoup de symptômes de stress aigu depuis le tremblement de terre et des symptômes de ce qu'on appelle le stress post-traumatique. C'est vraiment des problèmes de difficultés pour dormir, des douleurs corporelles inexpliquées, des craintes de retourner dans les bâtiments, des craintes de retourner aux activités habituelles. Des angoisses diverses, des cauchemars parfois, et des pensées autour de l'événement. On observe aussi des signes de dépression, avec des gens qui se sentent dépassés par la situation, dans des grandes tristesses, d'avoir perdu des êtres chers, d'avoir perdu tous leurs biens, d'avoir perdu leur occupation. Ça s'est vraiment déclenché ou aggravé dans certaines situations avec le séisme.
Est-ce que les Népalais se livrent facilement ?
C'est pas quelque chose qui est habituel dans la culture népalaise et on a été surpris de voir des hommes se confier. Je retiens justement ce monsieur qui avait la soixantaine, qui avait tout perdu pendant le tremblement et qui se sentait vraiment complètement démuni. Et il avait du mal à imaginer comment il pourrait refaire sa vie ou comment il pourrait reconstruire sa maison. Il avait très peu de moyens. Il était vraiment, vraiment touchant puisqu'il a commencé à pleurer et dire à quel point c'était difficile pour lui, en tant qu'homme, en tant que chef de famille, de ne plus pouvoir répondre aux besoins, juste aux besoins vitaux de sa famille.
Et quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous disent en premier ?
En premier, ce sont les plaintes somatiques. Ils arrivent vraiment dans l'idée d'être guéris de ces douleurs-là. Les maux de tête, les maux de ventre, les difficultés à dormir, les pertes d'appétit. Et justement, quand on leur pose un petit peu des questions au fur et à mesure, eh bien c'est la perte des biens qui arrive dans la discussion, c'est les êtres chers qu'ils ont pu perdre, les difficultés à reprendre les activités. On les aide à pouvoir mettre des mots sur tout ça.
Vous avez constaté davantage d'alcoolisation, davantage de violence intrafamiliale depuis le séisme ?
Alors ça existait déjà avant, mais on a eu des témoignages de personnes qui disaient boire depuis le tremblement de terre pour réussir à dormir par exemple, ou des personnes qui ont témoigné d'augmentation de violence par des personnes qui étaient un petit peu dépassées par les événements, qui ne savaient pas gérer leur stress. Pour l'instant, les cas qu'on a eus, c'était des femmes qui avaient été violentées par leur mari au sein du couple.
Est-ce que dans les violences domestiques, il y a également des violences sexuelles ?
Des enquêtes ont été faites qui montrent qu'il y aurait une augmentation depuis le tremblement, liée justement à cette promiscuité, aux pertes de repères et à ces problématiques-là. C'est très tabou, et voire même si ça arrive, la société va s'arranger pour que ça ne s'apprenne pas.
Comment vous trouvez les Népalais aujourd'hui dans leur façon de voir le présent et de voir l'avenir ?
On a rencontré des groupes de femmes pour qui c'était difficile d'envisager un avenir, de dire on a tellement travaillé pendant tellement de temps et tout est détruit, qu'elles avaient du mal à trouver parfois l'énergie pour se dire ok, on reprend. Malgré tout, je trouve que les Népalais sont vraiment un couple très résilient et même s'il y a eu un peu cette période de flottement, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives pour reprendre. Ça se voit notamment dans la ville où on voit les travaux de démolition, de reconstruction qui avancent vraiment. Les femmes qui travaillent dans les champs, en ce moment c'est les plantations, qui sont vraiment toute la journée à planter pour pouvoir produire. Et même les coopératives qui, même si c'est pas facile, se remettent en route petit à petit.
Nous sommes à Chautara, qui est la principale ville du district de Sindhupalchok. C'est une petite ville qui surplombe une montagne très verte, très boisée, avec des cultures en terrasse, et une ville qui a été vraiment ravagée. Là, on est dans la rue principale, et de part et d'autre de la rue, c'est un immense chantier. Les habitants essayent de reconstruire comme ils peuvent. Alors, ils essayent déjà de déblayer, souvent à main nue, des hommes, des femmes, qui déblayent les briques sur des emplacements qu'on pense avoir été forcément leur maison. Il y a aussi des hommes qui détruisent les maisons. Et dans ce cas-là, ce sont les marteaux-piqueurs qui entrent en jeu, centimètre par centimètre. Puis il y a ceux qui sont un petit peu plus avancés, qui ont commencé la reconstruction avec des briques rouges, ils commencent à monter des murs. Mais il faut évidemment protéger ces constructions de la pluie. Et c'est très compliqué parce qu'ici, on travaille entre deux pluies, il pleut énormément. C'est un pays vraiment exsangue, suspendu aux caprices de la terre et du ciel.
Je suis le docteur Sagar Kumar Rajbandari. Je suis le responsable de la santé du district de Sindhupalchok. Et je suis également le directeur de l'hôpital public de la ville de Chautara.
Quelle est l'importance des destructions ?
Dans le district, les maisons construites en terre sont toutes détruites, 100%. Quant aux maisons qui ont été construites en béton, entre 70 et 90% n'existent plus.
Vous venez de terminer une réunion importante avec beaucoup d'ONG qui vous aident. Est-ce que cette aide internationale, elle est nécessaire, elle est essentielle à la reconstruction ?
Au Népal, 14 districts ont été affectés par le séisme. Le nôtre est le plus touché. Il y avait déjà des associations, des ONG qui travaillaient ici avant le tremblement de terre. Aujourd'hui, elles sont 80, car nous vivons un moment difficile. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Les habitants ont besoin du gouvernement, des associations locales, mais aussi de cette aide internationale, des ONG. Pas sur le long terme, mais pour quelques mois, le temps de reprendre une vie normale.
Les cultures, l'agriculture, où en est-on? Est-ce qu'on va pouvoir récolter prochainement? Est-ce que ça a été semé déjà?
Bien sûr, cette année a été très difficile pour nos cultures. Le séisme a provoqué des crevasses dans les champs. Nous avons des problèmes d'irrigation parce que l'eau s'engouffre dans ces fissures et elle ne nourrit pas les cultures. Les habitants n'ont pas eu le temps de s'en occuper. Ils étaient traumatisés. Ils ont abandonné les champs parce que la priorité, c'était les stocks de nourriture. Ces stocks qu'il a fallu récupérer sous les maisons effondrées dans les décombres. Ensuite, les habitants ont dû trouver des abris pour entreposer cette nourriture, pour protéger les stocks de riz, de maïs, pour protéger les semences. Avec tout ça, on a récolté moins de maïs que d'habitude et nous aurons aussi des problèmes cette année pour la récolte de riz.
Quand on observe, on voit beaucoup dans ce district de femmes, d'enfants, un peu moins d'hommes. Les hommes partent travailler à Katmandou, à l'étranger. Il y a l'exode rural qui était un phénomène déjà très important avant le séisme. Est-ce que ça s'est amplifié depuis ?
Oui, juste après le séisme, les hommes ont quitté la région en plus grand nombre. Et puis avec la mousson, les familles ont eu peur que les éboulements n'aggravent la situation. Alors elles ont quitté leur maison, elles sont allées se réfugier dans des camps de fortune aux alentours. Ou même elles sont allées s'installer à Katmandou.
La capitale, c'est justement là que nous retournons. On s'éloigne maintenant du centre-ville pour monter sur les hauteurs de Katmandou. Devant nous, 5 tours qu'on ne peut vraiment pas louper parce qu'elles sont très hautes. Elles font partie des rares hauts immeubles de la ville. En Asie, les tours, c'est le symbole de la modernité. Celles-ci sont habitées depuis 2 ans, ou plutôt étaient habitées, car elles menacent de s'effondrer aujourd'hui, surtout les 2 immeubles qu'on a juste en face de nous. Il y a de très grosses fissures sur les murs. Alors, ces immeubles ont été évacués. Évidemment, la construction ne répondait pas aux normes antisismiques. Et ces tours, finalement, elles sont très symboliques du Népal d'aujourd'hui. Avec le tremblement de terre, c'est un coup d'arrêt à la modernité, ou du moins au rêve de modernité. Un coup d'arrêt aussi à la croissance économique. Et les premiers à en faire les frais, eh bien, ce sont les habitants.
My name is Prem Bahadur Lama.
Je m'appelle Prem Bahadur Lama. Je tiens l'hôtel Kumari Inn, qui se trouve juste au pied de ce complexe, de ces tours. Le jour du tremblement de terre, nous avions des clients de Suède, d'Australie, des Maldives, de France et d'Inde. Tout le monde prenait le petit déjeuner dans la salle à manger, et puis soudain ça a commencé à trembler, à vibrer. On est sorti de l'hôtel et on a vu les tours. Elles bougeaient comme des serpents, vous voyez, des serpents qui dansent quand on les charme. 83 familles vivaient là, 212 personnes. Elles ont toutes décidé de quitter ces tours le plus vite possible.
Effectivement, on voit que ça menace de s'effondrer. Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous avez peur que ça s'effondre ?
Bien sûr, j'ai très peur. Nous ne sommes pas architectes ou ingénieurs, mais quand on voit ces tours, évidemment, on se dit qu'elles risquent de s'effondrer. Il y a 17 étages. Au début, le gouvernement n'avait autorisé la construction que pour 11 étages. Mais les promoteurs ont finalement obtenu 6 étages de plus. Il y a certainement eu un gros... Enfin, des dessous de table ou quelque chose comme ça.
Vous avez dû fermer votre hôtel ?
Nous sommes restés fermés environ 2 mois et demi. À côté, il y a un terrain vague. Nous avons installé des tentes. Et nous avons vécu là, pas seulement moi, tous nos voisins aussi. Nous sommes allés voir le Premier ministre, le ministre du Logement, les services de l'urbanisme et le chef de district, partout. Nous sommes allés partout. Là où il fallait aller, nous y sommes allés. Notre demande, c'est la démolition de ces tours. Ce n'est pas juste.
Parce que votre hôtel, lui, est intact.
Intact, oui.
Intact, oui. Aucune fissure, aucune lézarde. Mais à cause de ces tours, on n'a pas de clients. Ils ont peur de séjourner à l'hôtel. Ils disent, comment pourrait-on rester ? Ça peut tomber à tout moment. Je les comprends. Je ne peux pas forcer les clients à venir dans mon hôtel, leur dire que tout ira bien. Parce que dans leur esprit, ils ne se sentiront pas en sécurité dans mon hôtel.
Mais ces tours, finalement, c'est la modernité.
Oui, la modernité, mais ce n'est pas adapté au Népal. Si on tient compte de la situation sismique de Katmandou, de son sol, vous croyez qu'en construisant de grands immeubles comme cela, tout ira bien? Pourquoi ils en construisent?
Cet hôtel, si j'ai bien compris, c'est le travail de toute une vie.
Tout l'argent gagné dans ma vie, toute ma jeunesse ont été investis dans ce projet. Désormais, j'ai 53 ans. Le futur, je le vois plutôt sombre. J'ai 9 salariés. Je vais devoir leur dire au revoir. Mes enfants sont étudiants. Si je n'ai plus de revenus, comment je vais pouvoir payer leurs études?
Vous êtes bouddhiste. Est-ce que ça a une signification, ce tremblement de terre, pour vous?
On ne devrait pas aller contre la nature. Ce tremblement a tourné au désastre à cause de nos propres actions. Parce qu'on a construit de grands immeubles, parce qu'on a coupé les arbres. L'homme, certaines de ses actions, c'est ça qui provoque le désastre. Nous sommes déboussolés maintenant. Je m'interroge beaucoup sur la vie, sur ce qu'il faut faire. S'ils démolissent ces tours, alors mes clients reviendront, mais ça va prendre du temps, peut-être 1 ou 2 ans.
Népal, la difficile reconstruction, c'était un reportage de Solène Lehen, mixage Valérie Lavalard. Avec nous en studio pour commenter cette situation au Népal, après les tremblements de terre, la responsable des urgences pour CARE France, Violaine Gagnet, bonjour.
Bonjour.
CARE est une ONG présente depuis de nombreuses années au Népal. Vous n'êtes sans doute pas surpris par conséquent par ce qu'on vient d'entendre et notamment par le fait que la reconstruction n'a pas encore vraiment commencé, que la situation des populations reste extrêmement précaire, plusieurs mois après le séisme. Ça, c'est quelque chose qui ne vous surprend pas?
Oui, tout à fait. La situation est extrêmement compliquée sur le terrain. Un séisme qui a touché plus de 600 000 maisons qui ont été complètement détruites, 200 000 endommagées. On parle de plus de 8 millions de personnes qui sont affectées par le séisme. On est dans une catastrophe naturelle qui est l'une des plus importantes que l'on peut comparer à Haïti, aux Philippines pour les dernières années.
Selon vous, le gouvernement table sur 5 ans pour la reconstruction, ça vous paraît raisonnable? Vous pensez qu'il va falloir effectivement tout ce temps-là pour reconstruire?
Une reconstruction d'un pays qui était touché par un séisme est toujours très long. Il est difficile d'évaluer le temps qu'il faut. 5 ans paraît une période assez limitée. Si on compare même à Katrina, dans un pays à haut revenu, on est surtout plutôt à 10 ans. Et donc ça paraît extrêmement court, d'autant plus que suite au séisme, la saison des moussons a commencé presque immédiatement, qui a amené une complication d'autant plus à répondre à l'aide humanitaire. Donc on commence tout juste à penser à la reconstruction, mais elle n'a pas réellement commencé pour l'instant.
Et c'est vrai, vous le dites, que c'est un pays pauvre, un des pays les plus pauvres même de cette région. Alors il y a aussi la situation politique qui est particulière au Népal, une crise politique qui dure depuis plusieurs années. Les différents partis n'arrivent pas à s'entendre sur une constitution. Alors que les mieux placés pour coordonner l'aide, pour l'organiser, ça serait les autorités locales. C'est une donnée, ça, qui complique aussi les choses?
Effectivement, l'État est central dans une réponse d'urgence, d'aide humanitaire. Toute coordination est faite avec l'État. Les ONG, le monde aussi de l'ONU, influence, participe, soutient l'État à mettre en place. Mais effectivement, vu la situation actuellement dans le pays, ça amène une complexité, une lenteur pour des prises de décision sur la reconstruction.
L'urgence pour vous aujourd'hui, la plus grande urgence au Népal, c'est quoi ?
Actuellement, c'est se préparer à l'hiver. Comme je disais précédemment, on commence tout juste la reconstruction. On est encore sur une aide de première urgence. On divise toujours l'urgence en première urgence, répondre aux besoins vitaux des populations et ensuite reconstruire. Étant donné la mousson et les difficultés d'accès sur les territoires, la phase de reconstruction est à son début et on doit tout de suite repenser à l'hiver. L'hiver, pourquoi? Parce que c'est un pays extrêmement montagneux. Un habitant sur deux habite encore dans un abri temporaire. Il faut donc penser à les préparer, à se protéger au mieux de cet hiver qui va être extrêmement rude au Népal.
Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire du matériel pour se protéger du froid, des choses comme des duvets, des abris. Qu'est-ce qu'il faut encore leur apporter?
Alors en urgence, en tant que tel, c'est effectivement des chauffages, réparer les maisons si c'est possible afin de protéger, remettre des fenêtres par exemple, des couvertures aussi bien bien évidemment, tout ce qui peut servir à se protéger du froid, et aussi, au maximum, avant le début de l'hiver, essayer de pouvoir replacer les gens dans leurs maisons, dans les maisons nouvellement construites.
On entend dans le reportage que le travail dans les champs, à la fois parce que il y a eu de gros dégâts qui empêchent l'accès aux champs, à la fois parce que les gens sont un peu déboussolés et pour certains même ont des syndromes post-traumatiques, sont dans une forme de dépression, a pas pu vraiment se faire. Ça vous inquiète aussi parce que la récolte prochaine risque d'être très affectée par ça.
Absolument, il y a un risque très important d'insécurité alimentaire au Népal. Au moment du séisme, c'était le moment des récoltes qui n'ont pas pu se faire. Les stocks alimentaires des agriculteurs ont été totalement détruits. Donc les personnes vivent en principe dans les campagnes actuellement grâce à l'aide humanitaire en très grande partie. Donc actuellement, ce que nous faisons, encore une fois en deux étapes, réponse d'urgence, donc distribution alimentaire, mais aussi on distribue des graines, on essaye de remettre en place les stocks alimentaires des populations.
Vous parliez tout à l'heure d'Haïti. C'est vrai qu'on peut comparer. Haïti a été touché par un séisme en 2010 qui a fait encore plus de victimes, 300 000 victimes. C'était énorme et ne s'est toujours pas vraiment remis de ce séisme. Et beaucoup d'observateurs disent qu'il ne faut pas que le Népal reproduise les erreurs d'Haïti. Vous partagez un petit peu ce point de vue et si oui, quelles sont les erreurs à ne pas reproduire?
Ah, effectivement, Haïti est encore en phase de reconstruction.
Vous y êtes présent, hein, Kéra,
Haïti. Tout à fait,
précisé,
oui, on travaille
présent
depuis,
aussi à Haïti. Ouais.
Depuis de nombreuses années, on travaille justement sur l'urbanisation à Port-au-Prince. Donc, effectivement, les erreurs à ne pas reproduire, elles sont assez multiples. Je dirais, encore une fois, l'acteur principal est l'État. C'est-à-dire qu'on peut, en tant qu'ONG, monde humanitaire en général, donc CARE en fait partie, faciliter, essayer d'influencer, mais des décisions politiques sont prises au niveau de l'État. Mais ce qui est aussi lié là-dessus, qu'on voit à Haïti et qu'on voit déjà maintenant au Népal, c'est le problème aussi de la propriété foncière et du cadastre. Il n'y avait pas forcément de cadastre auparavant, ou bien il n'y avait pas forcément des titres fonciers. Donc toute cette question, qui était d'abord juridique, tant qu'elle n'est pas réglée, ne pourra pas permettre des reconstructions à long terme. On voit exactement la même chose sur les Philippines suite au séisme de novembre 2013.
Merci, Violaine Gagné, responsable donc des urgences pour l'ONG CARE France. Interception est réalisée par Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe et Zora Ben-Smaili pour le site de l'émission. Merci à Romain Couturier pour la documentation musicale cette semaine. Dans quelques instants, le journal de 10h sur France Inter. Bonne journée.
Merci Lionel Thompson, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Interception, une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, à la page de l'émission Interception, à écouter en son 5.1 et en binaural, une aventure sonore à ne surtout pas rater.